nous sommes apparus sur Terre bien avant les humains. Nous avons survécu à des cataclysmes qui ont porté des milliards de vies. Nous avons tenu bon jusqu'ici. Mais une poignée d'entre vous est en train de façonner un monde qui nous anéantira tous. Nous sommes tour à tour traités d'indésirables, de nuisibles, d'invasifs. Nous sommes piégés, emprisonnés, empoisonnés, massacrés. Malgré cette époque maudite, un petit nombre d'humains essaient de s'organiser et de se battre pour que nous puissions vivre en paix. Décidément, vous êtes imprévisibles. Nous voulons aujourd'hui dénoncer nos agresseurs et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont aidés tout au long de notre histoire commune. Je suis le Martin Pêcheur. Nous sommes les oiseaux, nous sommes le peuple ailé, et nous avons bien des choses à raconter. Ceci est notre tribunal. Épisode 10. Le grand cormoran. Nous sommes à Paris, dans le premier arrondissement, le lundi 8 juillet 2024. Derrière les colonnes qui gardent l'entrée du Palais Royal, bien installés dans des sièges confortables, les membres du Conseil d'État viennent d'annuler un arrêté ministériel datant de septembre 2022. Celui-ci interdisait le tir d'une espèce protégée en eau libre pour la période 2022-2025. Il s'agit du grand cormoran. Suite à cette décision, la Fédération nationale de la pêche en France exulte, tandis que les associations de défense de la biodiversité fulminent. Mais reprenons depuis le début. Le grand cormoran est un palmipède au long cou, assez grand, entre 75 et 95 cm lorsqu'il est debout, pour une envergure de 1,20 m à 1,50 m, les ailes déployées. Le corps de l'adulte est entièrement noir, avec pour seule touche de couleur des taches blanc-crème sur les joues, jaune à la commissure des lèvres et un long bec tirant sur le gris, surplombé de deux yeux vert émeraude. Des taches blanches apparaissent au niveau des cuisses lors de la période nuptiale. C'est un oiseau surtout piscivore et un excellent plongeur. Cependant, les sécrétions qu'il produit pour étanchéifier ses ailes ne suffisent pas. Il doit donc se sécher longuement les ailes au soleil lorsqu'il sort de l'eau. Il appartient à la famille des Phalacrocoracidae, mot issu du grec ancien et signifiant « corbeau chauve ». Le terme français « cormoran » serait quant à lui un mot valise issu de l'ancien français signifiant « corbeau marin ». Et historiquement, ces oiseaux ont également été connus sous le nom de corbeau d'eau. En résumé, tout le monde s'accorde sur le fait que cette famille d'oiseaux a le plumage noir comme celui des corbeaux. Le grand cormoran a la réputation d'être un oiseau marin qui, depuis quelques années, se serait mis à faire des incursions à l'intérieur des terres par fantaisie. On entend beaucoup dans la bouche des ennemis de cet oiseau qui disent qu'il n'a rien à faire là, lorsqu'il est trouvé sur une étendue d'eau ou une rivière. Rien n'est plus faux. En hexagone, l'espèce comprend trois sous-espèces. Deux marines, Phalacrocorax carbo-carbo, Phalacrocorax carbo-norvegicus, et une continentale, Phalacrocorax carbo-sinensis. Il y a donc toujours eu des cormorans à l'intérieur des terres dans l'hexagone. Par ailleurs, quand bien même, il s'agirait d'une espèce marine qui changerait peu à peu d'écosystème pour devenir plus continentale. Quel serait le problème? Rien n'est jamais figé dans la nature. Tous les êtres vivants se déplacent tout le temps. Les écosystèmes s'entrechoquent et évoluent en permanence. Qui sont ces humains qui s'estiment légitimes à décider où les oiseaux ont le droit de voler à leur place? Les grands cormorans ont frôlé par deux fois l'extinction dans notre pays. Une première fois à la fin du 19e siècle, l'espèce étant présente sur le littoral breton et normand, des campagnes de destruction d'oiseaux piscivores vont réduire les effectifs à 60 couples, cantonnés au nord-est de la Normandie. C'est vraisemblablement cette population qui est à l'origine de la réaugmentation progressive des effectifs dans l'Hexagone au cours du XXe siècle. Mais dans les années 1970, les grands cormorans ont de nouveau frôlé l'extinction en raison des persécutions humaines et de la pollution. Leur population n'a commencé à se rétablir qu'après l'introduction de la protection juridique instaurée par la directive Oiseaux en 1979 et l'interdiction de pesticides toxiques comme le DDT. Dans le même temps, l'agriculture intensive provoque le rejet d'engrais dans les eaux douces européennes qui vont doper le développement de végétaux aquatiques et en conséquence les densités de poissons. Ce phénomène appelé eutrophisation, ajouté aux mesures de protection, ont permis aux grands cormorans de retrouver des couleurs. En 1990, on comptait moins de 2000 cormorans nicheurs en France, contre 11 000 en 2021. Sans surprise, quand l'humain fout la paix à une espèce, elle se porte mieux. Mais certains pêcheurs vont vite accuser le volatile de dégrader l'état écologique des rivières en s'attaquant à des poissons en danger, comme les brochets ou les ombres communs, et par là même de leur piquer leur proie. Dans le doute, ils vont demander à pouvoir sortir le fusil pour réguler les populations. Pour ce faire, ils vont mettre la pression pour obtenir des arrêtés préfectoraux permettant des tiers de régulation, contournant le statut de protection des grands cormorans. Précisons d'emblée qu'aujourd'hui, les poissons d'eau douce sont parmi les organismes les plus menacés d'extinction, juste derrière les amphibiens. Pourtant, depuis que les poissons ont colonisé les écosystèmes d'eau douce, ils ont toujours eu nombre de prédateurs, volatiles ou non, qui ne les ont jamais fait disparaître, pas plus que les lions ont fait disparaître les antilopes ou que les jaguars ont provoqué l'extinction des pécaries. Les prédateurs étaient déjà là, lorsqu'il y a 2 siècles, l'être humain a commencé à faire planer des menaces bien identifiées sur les écosystèmes d'eau douce. La surpêche, les pollutions agricoles ou industrielles, la fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces invasives, dont certaines sont le fait des pêcheurs de loisirs, et le dérèglement climatique. Ces menaces font qu'en Europe et en Amérique du Nord, le rythme d'extinction des poissons d'eau douce est 112 fois supérieur au rythme naturel. Et ce sont les humains les responsables, pas les oiseaux. Mais revenons à nos cormorans. La revue Fish and Fisheries a publié une méta-analyse. Je cite. Tout d'abord, sur un total de plus de 600 articles, seulement 22, moins de 4%, permettent d'estimer quantitativement l'impact de l'oiseau noir sur les populations piscicoles. Sur ces 22 études, il y a autant d'articles qui démontrent un effet négatif du cormoran sur les populations de poissons, et ceux-ci se concentrent sur les populations de poissons fourrage, comme le gardon. Tandis que d'autres articles démontrent un effet positif de la présence de l'oiseau. Il est difficile d'en dire plus devant le manque général de données quantitatives, mais il est clair que rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le cormoran a un effet global négatif sur les populations piscicoles. Par ailleurs, il a été prouvé que les tirs de réduction des populations sont inefficaces et l'efficacité des tirs dans la réduction de la pression de prédation n'est toujours pas démontrée. D'ailleurs, la Fédération nationale de la pêche en France ne s'y trompe pas et encadre toujours le mot « régulé » de guillemets dans ses communiqués. Ajoutons que les tirs, lorsqu'ils sont autorisés, le sont sur la sous-espèce Phalacrocorax carbocinensis uniquement. Or, celle-ci est indifférenciable à l'œil nu de la sous-espèce Phalacrocorax carbo-carbo. Enfin, rappelons que sur le plan juridique, il est obligatoire de rechercher des solutions alternatives aux tirs en premier lieu, et que pour les piscicultures comme pour les plans d'eau, des solutions existent, comme la mise en place de filets ou fils tendus sur la surface du plan d'eau, ou l'installation de refuges et de végétation où les poissons peuvent s'abriter. Pour toutes ces raisons, la Ligue de protection des oiseaux a attaqué sans relâche les arrêtés préfectoraux permettant les tirs. Sur la saison 2019-2020, elle a déposé 17 recours contre les arrêtés et a obtenu 17 victoires. Pragmatique, le gouvernement avait donc pris son arrêté ministériel en 2022 pour interdire complètement les tirs en eau libre pour la période 2022-2025. Celui-ci ayant été annulé, nous sommes repartis pour un tour de manège. En conclusion, en l'état actuel des choses, il se peut que les cormorans aient des impacts localisés sur certaines espèces de poissons. Cependant, ils ne sont pas responsables de l'état actuel des choses et les tirs n'ont aucune chance d'améliorer ce dernier. Il semble que les pêcheurs qui veulent réguler les cormorans sont motivés avant tout par le fait d'éliminer un concurrent qui pourrait s'en prendre à leur proie facile, plutôt que par le fait de stabiliser les écosystèmes d'eau douce. C'est dommage, car les fédérations de pêche ont par exemple participé à la lutte contre l'agro-industrie, notamment les méga-bassines des Deux-Sèvres, évoquées dans notre plaidoyer de l'outarde canepetière. Dommage, car elles savent que les responsables de la dégradation des eaux douces ne sont pas des oiseaux au plumage noir, mais bien des êtres humains en col blanc. Les chants d'oiseaux que vous avez entendus dans cet épisode ont été enregistrés par l'Association de défense de la vallée du Lude et sont hébergés sur xeno-canto.org. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. C'était le Martin Pêcheur. Merci de m'avoir écouté.